France Inter.
C'est la bande originale.
Oui. Et bonjour.
Avec Lisa Delmotier, Emma Beaujean, Julien Santini, Tony Bastiaro, Aldela, Daniel Morin, et notre invité, monsieur Riyad Sattou.
Riyad.
France Inter, bande originale. Ouais. Léa Lacadour et Maggie.
Riyad un vendredi.
Ouais, ça c'est une bonne nouvelle.
C'est bien ça. Ouais.
C'est le Riyad du jour. Bienvenue Riyad.
Merci Maggie.
Ravi de
vous. Bienvenue dans mon Riyad.
Ravi
oh
de
vous. Oh, sortez-le. C'est pire que
les. T'es fatigant. Hein.
Riyad publie Terre des Hommes, carrément. C'est-à-dire, vous avez décidé d'illustrer Antoine de Saint-Exupéry, du moins ce roman formidable Terre des Hommes, qui m'a donné d'ailleurs l'occasion, et merci, de le relire, parce que c'est... Je sais pas à quel moment d'ailleurs on se dit tiens je vais relire quelque chose que j'ai déjà lu, si c'est un manque, si c'est on se dit on a passé l'âge de supporter Proust et donc on peut peut-être retourner
oui,
sur la recherche
du
temps perdu.
Si on a aimé un auteur et on se demande si on l'aime encore, je sais pas si on va y chercher du réconfort peut-être.
Bah ouais, bah là ça a été le cas. En tout cas même merci pour ça. Petit tour de table autour des héros justement de l'enfance. Antoine de Saint-Exupéry, quel héros? Est-ce que tu as un héros, Lisa Delmoitier, avec lequel tu aurais grandi? Tu admirais qui quand tu étais enfant, ado?
Je parle d'un livre dans ma chronique, mais après je regardais Tintin.
Ok, qui a peut-être été inspiré d'ailleurs par le passage de l'accident de Saint-Ex dans le désert. Emma.
Alors moi j'ai grandi avec la série Desperate Housewives, donc c'est pas
les
mêmes.
Comme bref, non. Ouais. C'est, bah, écoute, c'est ta génération.
Moi c'est Brie Van de Kamp.
Très bien. Leïla.
Tu peux reformuler la question?
Non.
Du coup j'étais un peu en train de penser.
Bah, héros ou héroïne de ton enfance?
Xena la guerrière.
Fantomette.
Buffy aussi.
Buffy contre le vampire. Mais Xena la guerrière, j'adore.
Julien, moi je n'ai pas d'idole. Je dis pas que je peux tout faire. Mais
Jean-Louis David peut-être.
Jacques Dessange, ouais. Jean-Louis David.
Il faut que ça cesse, ces blagues.
C'est une signature capillaire.
Et après du quotidien.
Oldelaf, de qui étais-tu héros?
Moi je pense que c'était Gaston Lagaffe.
Même pas Paul McCartney, sans blaguer. Toi.
Bah évidemment que si, mais il y en a beaucoup qui ont accompagné Goldorak, Jean-Pierre Foucault, plein.
Okay, cool.
C'est la même personne.
Il y a un peu tout là.
Framboisier des musclés aussi.
Okay. Ah ouais. Daniel, héros ton enfance?
Moi c'est Gandhi pour le message de paix.
C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, moi c'était vraiment Saint-Ex, mais c'était le Saint-Ex de Vol de Nuit, pas celui de Terre des Hommes. J'ai vraiment redécouvert Terre des Hommes. Et étiez-vous enfant, admiratif de Saint-Ex, ou c'est une découverte récente?
Ah non, Saint-Exupéry, c'était le... En fait, c'est le Terre des Hommes, c'est le premier livre, entre guillemets, de grand que j'ai lu à 15 ans.
Et... Après Le Petit Prince, évidemment.
Le Petit Prince, en fait, je ne l'avais jamais lu. Je l'ai écouté en cassette audio, lu par Gérard Philippe quand j'étais tout petit. Oui. Et je ne comprenais pas tout, mais j'adorais le début avec l'avion, vous savez, quand il s'écrase dans le désert.
Et la douce voix de Gérard Philippe, ça donnait ça, par exemple.
J'ai vécu seul. Ah, oui. Sans personne avec qui parler véritablement.
C'était pas le même rythme qu'aujourd'hui. Hein.
Ça ressemble à
tu sens que le mec, il a pas un train à prendre. Hein,
attends. Est-ce que ça serait pas...
J'ai vécu seul.
Julien Santini, non? C'est celui qui vit seul dans sa grotte, encore, je crois. Je l'ai connu.
C'est un bel hommage.
Non, c'est une sublime voix de Gérard Philippe, évidemment, cultissime. Et donc, vous avez d'abord connu le Vol de Nuit avant... Terre des Hommes avant?
Oui. D'accord. J'ai commencé Saint-Exupéry par ce livre-là. Mais moi, j'étais d'une famille où personne ne lisait de livres, en fait. C'est-à-dire, personne m'a recommandé la lecture. Je suis tombé dessus dans une bibliothèque à Rennes. En fait, j'avais un grand-père, mon grand-père breton, avait croisé dans la rue, quand il était enfant, Mermoz, qui était un compagnon de Saint-Exupéry.
Okay.
Et Mermoz lui avait donné une cigarette.
Et pardon, dont le visage était connu, reconnaissable,
c'était
facile.
C'était la méga star de l'époque.
D'accord.
C'est-à-dire, dès qu'il faisait un vol ou un truc, tout le monde était au courant, il y avait des articles partout.
D'accord. C'est Thomas Pesquet, quoi.
Oui, voilà, un peu exactement.
Donc votre grand-père croise Mermoz.
Et Mermoz lui donne une cigarette, alors qu'il avait 15 ans. Et après, il a fumé pendant 20 ans, mon grand-père. Après,
c'est malin.
Oui, mais en même temps, c'était l'époque.
C'est ah ouais, ouais, dealer. Ça s'appelle il dealer.
C'est romanesque.
C'était l'époque où les cow-boys fumaient des cigarettes.
Oui, c'est ça, exactement.
Et pas des brins de blé.
Donc, en fait, c'est vrai qu'il avait mis en moi. Enfin, il me racontait les histoires de ces héros français, en fait, de cette époque-là. Et j'étais tombé sur Terre des Hommes avec la photo de Saint-Exupéry avec sa tête un peu bizarroïde dessus. Je l'avais trouvé très touchant et je m'étais mis à le lire.
On va évoquer donc ces illustrations, mais aussi le roman avec votre permission, parce que c'est intéressant de savoir comment le travail a été effectué. On connaît le talent de Riyad Sattouf, mais rajouté à la narration d'Antoine de Saint-Exupéry, ça donne une très belle œuvre publiée chez Gallimard. Mais d'abord, voici Hold de la fan de Riyad Sattouf.
Ah oui.
Je suis fan de Riyad Sattouf, un dessinateur mais pas celui des schtroufs. Vous c'est l'arabe du futur qui vous a fait exploser, mais là pour le coup vous êtes avec l'arabe du passé. Et vous êtes là pour le livre
Pardon. Quoi?
Je travaille sous
l'arabe s'est déclenchée.
Et vous êtes là pour le livre Terre des Hommes, mais vous avez écrit votre propre version en somme. Je crois que Saint-Exupéry c'était plus un brouillon. Vous avez booster le texte et fait des corrections. Yes! Ouais, je suis fan du livre, il est vraiment bien. Et puis pour que Daniel comprenne, il y a même des dessins. Riyad Sattouf tout de même lâche les professionnels. Il écrit bien, mais le dessin, c'est Sattouf personnel.
Oh non!
S'il vous plaît, Santini ou Shaim sont des artistes vraiment au top. Oui, ils veulent compter dans le game, ils ont la gagne. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour eux. Ils arrivent même pas à la cheville de Sattouf. C'est pas trop Patrick. Riyad Sattouf a complètement plié le game. Il est connu partout dans le monde comme le loup blanc. Oh, comme les cheveux de son, je veux dire. Donald Trump le respecte. Musk dit que c'est son mentor. Poutine pense que c'est le sauveur de la terre. We are the world.
Riyad the world.
Riyad the children. Riyad the man qui change le monde juste quand il dessine. Oh, c'est ce qui dessiné. Et là, il a corrigé Antoine de Saint-Exupéry. C'est dans ce livre qu'il y a la phrase c'est Mozart assassiné. Moi, c'est Michael Jackson aujourd'hui que j'ai retué. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Oh, wow.
Oh, wow.
Que dire? Ah,
bravo!
Que dire?
Hein. Ah bah non, c'est honteux, tu rigoles ou quoi?
Alors, Hold the Love sur scène, si personne l'a abattu avant, le 1er avril, aux Folies Bergères.
L'arabe du passé, mais sans déconner. Oh, t'as un mot d'excuse pour faire ce genre
ouais,
de
ouais, ouais.
De qui?
Je me demande officiellement,
de
pardon.
Qui de qui?
Hold the Love, il y a Nagui qui, avec son téléphone, il écrit à son avocat.
Mais je suis en train d'envoyer un texto à la direction en disant.
Ah ouais, ça y est, c'est la fin de la route.
J'ai le conducteur. Voilà, c'est fait. Terre des Hommes, qu'est-ce qui est marquant dans cette aventure de Saint-Exupéry? Est-ce que c'est la poésie avec laquelle Saint-Ex décrit finalement les éléments naturels, les trombes d'eau, les nuages, les dangers par lesquels il passe, ou c'est l'aventure presque mécanique et la découverte de la technologie et des avions, parce qu'ils risquaient leur vie, encore une fois, pour une simple carte postale, une simple enveloppe?
Alors, je dirais que pour l'ado de 15-16 ans que j'étais, qui rêvait un jour de faire des livres, de créer, d'avoir une activité artistique, je crois que c'était la description déjà d'une expérience personnelle, parce qu'il utilisait le jeu pour raconter sa vie, son histoire, c'était
Sauf
un roman.
Là, il parle beaucoup des autres. Hein,
voilà, mais
c'est
ses amis, etc. Et justement, c'était aussi la description de l'amitié et de la fraternité. Et je sais que quand on est jeune, enfin en tout cas c'était mon cas, je rêvais d'avoir une vie qui me permette de vivre ce type d'amitié, ou ce type de relation humaine très forte. Il y avait une sorte de recherche de la fraternité, de voir dans l'autre être humain ce qui peut être comme nous, ou ce qu'on peut trouver en, en l'autre. Il y a quelque chose d'extrêmement positif.
C'était de l'amitié ou de l'admiration qu'il avait pour Mermoz, par exemple?
Ah, je crois que c'était de l'amitié, parce qu'à mon avis, il se prenait pour son égal. Enfin, ils étaient un peu... c'est vraiment l'idée aussi de...
Il lui donnait l'impression, en tout cas, de pouvoir faire des choses que lui ne se sentait pas capable de faire. Enfin, à le lire, oui. C'est carrément un hommage qu'il lui rend.
Oui, quoi, bien c'est... sûr, oui. Puis c'est vrai que c'était des gens qui risquaient leur vie pour finalement pas grand-chose, quelque part, pour emmener le courrier à l'autre bout du monde. Mais il y avait aussi cette idée de trouver ailleurs une autre famille que celle... qui est la nôtre, avec laquelle on est. Ça, c'était très positif.
Il se construit son récit, c'est-à-dire en disant « je », en laissant des traces. Enfin, je veux dire, on est quand même aussi, pardon, dans la construction d'un truc très de garçon, quoi. On est un peu des héros, on prend des risques insensés pour traverser le monde avec du courrier. Enfin, c'est aussi le regard que je peux poser sur
un texte. Qu'est-ce que c'est
que ce cliché? Bah, si, c'est ça aussi. C'est, il a
je
laissé...
Je ne suis pas sûr qu'il calcule ça comme ça.
Quand tu écris, que tu dis « je » et que tu publies, vraisemblablement, tu as l'intention d'être lu. Mais ça fait partie du personnage de Saint-Exupéry.
Avec les codes de l'époque, il y a ce recul-là, et ce regard, je serai un héros.
C'est des hommes qui construisent des images, et de tout temps, regarde, César le faisait déjà bien, donc il n'y a pas de raison que Saint-Ex le fasse pas. Mais ce n'est pas péjoratif pour autant, ça fait aussi partie du... Pourquoi Saint-Ex est devenu aussi un mythe? C'est aussi parce qu'il a laissé beaucoup de traces, ouais. Parce qu'il a écrit des choses qui sont...
Mais qu'il écrivait tellement bien, surtout. Eh oui. C'est ouf.
Oui, c'est vrai qu'il y a c'est une qualité de texte qu'on rencontre assez rarement.
Mais c'est de la philosophie ou de la poésie pour vous ?
Moi, je trouve que c'est des faits, honnêtement. Alors, il essaye d'expliquer, de trouver parfois un sens aux actes, aux actions, etc. Mais il y a une description hyper bien faite de la vie au quotidien, quoi. Et c'est hyper... Enfin, je sais qu'il y a un truc aussi que je trouve très drôle dans Saint-Exupéry, même si on c'est pas forcément présent dans son texte, mais c'est aussi tout l'aspect... complètement dangereux de ce qu'il pouvait vivre, qui n'est absolument pas compatible avec la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, il est dans tout le chapitre où il est parti faire un raid de Paris-Saïgon et où il a fait il a eu un accident dans le désert libyen et qui est le centre du livre, là où il a vraiment eu l'idée, l'illumination. Il a eu l'illumination de faire le petit prince à ce moment-là. En fait, il est parti sans aucune préparation. Il était dans son avion en costume, cravate, avec un petit peu d'eau dans sa bouteille. Et du raisin.
Une gourde.
Mais il y a quelque chose d'ultra drôle en fumant des clopes dans le cockpit, alors que ça tout pouvait exploser à tout moment. Je trouve qu'il y a. C'est même pas de l'inconscience, mais il y a quelque chose de très rigolo dans le.
Bah c'est de la découverte à tous les niveaux, c'est-à-dire la technologie. Et il y a même une espèce d'ode réservée à la mécanique et au mécanisme. Il y a une confiance dans la machine qui peut trouver écho d'ailleurs avec ce que l'on vit aujourd'hui en disant est-ce qu'on va pas trop loin avec les ordinateurs, avec l'intelligence artificielle. Lui, il a un regard au contraire, en disant, il faut aller vers la modernité, il faut aller vers les machines et ne pas en avoir peur.
Oui, et puis c'est vrai aussi que, enfin, je sais pas, moi je trouve que par exemple dans Terre des Hommes, c'est clair que le livre ne parle pas que de l'avion, mais que c'est aussi une métaphore de la vie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour diriger sa vie, comment on se dirige quand on sait pas où aller, quand on est perdu et qu'on s'effondre dans la solitude, on peut mourir. Enfin, tout est
et
une
qu'on
sorte
va
d'image.
Au-delà des nuages.
Bah, oui, voilà, il y a je sais que c'est pour ça que j'ai eu aussi envie d'illustrer ce livre, parce que j'ai beaucoup de lectrices et de lecteurs qui sont jeunes, qui adorent l'Arabe du futur et Cahiers d'Esther. Je me dis, si je pouvais les emmener vers ce livre qui m'a montré d'autres horizons quand j'étais jeune.
En tout cas, vous avez permis à un Arabe du passé de le relire, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. Terre des Hommes,
les auditeurs n'ont pas vu.
Gallimard, ils ont entendu, c'est de la radio.
Après le cornuole de l'AF. Au revoir.
Riyad Satouf, illustre Saint-Exupéry chez Gallimard. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Lisa Delmoitier.
Bravo.
Est-ce que vous, Lisa, vous n'auriez pas revu et corrigé Saint-Exupéry comme ça?
Mais non, je savais pas qu'on pouvait juste dessiner à côté de textes déjà écrits. Pourquoi je me casse le cul, moi, franchement? Si c'est le cas, Riyad, ça vous dirait d'illustrer mes chroniques? Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Vous savez dessiner des pénis. Bon, voilà, 90% du boulot est déjà assuré. Le reste, vous dessinez vite fait un colon pour les fois où je parle de mes troubles digestifs, puis un énorme point d'interrogation pour mes doutes existentiels, et vous avez mon existence en rébus. Zizi, trouble du côlon irritable, pourquoi on vit ? C'est la Sainte Trinité, version Del Moitié. Avec un point bonus, bien sûr, si vous trouvez le lien entre les trois. Vous me ferez gagner 15 années de psychanalyse. Que je pratique, soyons honnêtes, moins par intérêt pour ma psyché que pour la joie que me procure d'être allongée sur un canapé. En vrai, j'ai jamais fait de psychanalyse, je dis ça, mais je cherchais juste un dealer pour me déstresser et je me suis retrouvée 15 ans coincée à faire de la thérapie cognitivo-comportementale, tout ça parce que j'avais confondu sur le site TCC et THC. C'est ballot, hein. Mais c'est bien ça pour déstresser, dessiner, hein. Vous avez l'air détendu, Riyad. Vous illustrez le livre qui a bercé et marqué votre jeunesse, Terre des Hommes, quel plaisir. Moi, les livres qui m'ont formé, ce sont ceux de l'école des loisirs. Il y avait Okilélé, notamment, sur un enfant tellement laid que ses parents l'ont appelé Okilélé. Que voulaient exprimer les parents d'Oldolaf, exactement. Moi, mes parents voulaient utiliser la même technique, mais la mairie a refusé de m'inscrire à Okilélé névrosé. Voilà. Pourtant, ça rime avec Del Moitié. Moi, j'aime bien. Il y a eu Hansel et Gretel aussi qui m'a marqué quand j'étais petite. C'est un grand classique qui rassemble mes deux passions, l'immobilier et le diabète. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas la vraie vie, par contre. Je me suis pété les deux dents de devant en essayant de bouffer une tiny house. Mais bon. Vous me donnez envie de dessiner, Riyad. J'en ai marre d'écrire. J'ai fait le tour des lettres, sérieux. Il y en a que 26. Et encore, j'utilise jamais le Y. À quand un invité qui vient nous présenter un livre sur un Yankee qui chasse le Yeti ? Imaginez, époque yéyé, un yogi change de vie pour apprendre le yiddish. Enfin, d'autres histoires, quoi. Je sais pas. J'en ai marre des lettres. Sérieux, on peut pas en inventer une nouvelle, au moins. Le goui, le vru. Parce que les mots, là, le blabla, j'en peux plus de m'entendre, en fait. Vraiment, moi, je veux dessiner. Voilà, je veux illustrer des grands récits aussi. Ouais. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Bon, on peut faire avec des photos. Allez, faisons un jeu. Je vous donne une photo et vous devez me donner le classique de la littérature.
D'accord.
Alors, ici, on a une salle d'attente d'un bureau de poste.
La recherche.
À la recherche du temps perdu.
Non, exactement, Leïla, je comptais sur toi.
Bien joué.
Ensuite, on a le mec que j'ai ramené chez moi le week-end passé.
Oh, genre.
Si, je te jure.
C'est Oblomov.
Et qui me dit le lendemain sur l'oreiller qu'il va me rappeler.
50 nuances de Grey.
Non.
C'est la promesse de l'aube.
Ah oui. Hein,
ouais. Du mensonge. Wow. De Romain Gary ou Émile Ajat. En effet, lui aussi m'avait donné un faux nom.
Oui, c'est vrai.
Alors ensuite, on a une chouette.
On a raté, lui aussi m'avait donné un faux nom, pardon. La Reine des Neiges.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.
C'est vrai.
Et enfin, un dernier, il est où ? Ah oui. Parce que ce jeu a assez duré. Mais je le tire en longueur parce que ça me
surtout
permet de ne pas écrire.
Surtout montrer des photos à la radio, c'est génial.
La meilleure photo, j'ai dit que je suis fatiguée. La meilleure photo de l'histoire de la photo, à savoir celle de Daniel Morin.
Ah oui.
Le jour où il est revenu d'une de ses soirées travesties au travail.
Daniel Morin qui se met du rouge à lèvres. Oui.
Son rouge à lèvres, c'est... ce que le jour doit à la nuit.
Ah oui.
Voilà, c'est génial. Wow. J'ai trouvé mon nouveau créneau. Pas du tout, on va arrêter ça tout de suite. Donc merci Riyad. Et sur ce, je vous laisse. J'ai mon rendez-vous mensuel de THC.
Merci. Isabelle Moitié, heureusement qu'elle n'est pas passée à l'acte.
Peut-être qu'elle est à la télé, Leïla.
Oui, absolument. Remontade à son spectacle sur francetv.fr. Merci.
Depuis le 2 octobre, Riyad, vous avez publié donc Terre des Hommes. Vous avez illustré Saint-Exupéry. Comment publier autant de dessins ? Il y en a énormément. Hein. Il y en a une
150. Ça,
voilà, 150. Est-ce que c'est sur des moments clés du roman que vous vous arrêtez ? Sur des images ? Je pense notamment aux vipères qui sont cachées sous les lattes du parquet ou dans un trou. En tout cas, je ne sais plus si c'est un parquet. Non, c'est quoi ?
Oui, c'est un parquet. C'est, ça, c'est ouais. Un parquet.
Donc, ce sont des images qui vous viennent ou des moments que vous voulez souligner.
Alors, ça a été très très simple. En vrai, je me suis branché avec une antenne et j'ai fait dessin du début jusqu'à la fin en voyant quels étaient les dessins que je captais par le récit.
Vous avez tout dessiné ?
J'ai essayé de pas réfléchir, voilà. Ah
ouais. Donc vous avez fait plus que 150.
J'en ai fait un petit peu plus, mais il y a quelqu'un que j'ai pas gardé, mais j'ai pas du tout réfléchi,
hein ?
Quelques-uns.
Ah, quelques-uns, j'ai dit quelqu'un.
Ah non,
quelqu'un. Non, je pensais à
oui. Et le des envies de meurtrière.
Avec Lila, on fera des codeurs.
Et
tout ça se retrouve dans une exposition d'ailleurs.
Oui, en ce moment. Oui, à la
rue de l'Université.
À la galerie Gallimard.
C'est ça, qui est 8 rue de l'Université.
60, je crois. Si je
dans le 8e, alors. 8, ouais. J'avais un 8 en tête, mais je ne sais pas où c'est. Vrai. C'est ça.
Non, c'est dans le 6e.
On va y arriver.
Ok.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est 30 rue de l'Université.
32. 32 rue de l'Université.
Rue de l'Université. Des noms. C'est dans le 60e.
C'est à Paris.
Où mettre un dessin qui illustre un texte ? Parce que là aussi, j'ai été frappé. Est-ce que c'est une question de mise en page ? Mais par moment, l'image arrive exactement au même moment que le texte. Et par moment, il arrive un tout petit peu après, comme si l'image résonnait.
Oui, alors c'est vrai que ça aussi, ça fait partie du concept.
C'est un travail de mise en scène.
Ouais,
de mise en scène.
Voilà, parce qu'il faut.
Ou un problème avec l'éditeur?
Non. non, pas du tout, parce qu'en fait, et c'est vrai que je tenais à ce que parfois le dessin, en effet, soit en écho exactement avec le texte. Parce que parfois, il y a des illustrations dans certains livres qui arrivent avant ou qui arrivent bien après, et on a un peu oublié ce qu'on a.
Oui, le bien après, c'est juste une page après.
C'est aussi les tournes, c'est comme en BD. Ouais. Il y a des images que je tenais à ce qu'elles soient, elles arrivent.
Sur la page de droite.
Voilà, sur la page de droite ou de gauche. Et donc, c'est tout un travail qu'il faut prévoir en amont.
Et comme de l'intégrer dans le texte aussi, c'est-à-dire que le texte prenne la forme, la courbe du dessin aussi.
Oui. Et ça, c'était génial à faire parce que il y a une liberté avec la maquette je pouvais jouer exactement comme je voulais. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a on peut se retrouver avec un tout petit paragraphe tout en bas du texte, tout en bas de la page avec un grand dessin au-dessus. Donc, faut bien régler.
Ça veut dire qu'il faut créer les dessins, faire la mise en page en parallèle pour voir ensuite ce qui est possible. C'est compliqué, en fait.
Oui, c'est pas très compliqué, mais ça demande quand même de la recherche et du doté. Il faut faire les deux en même temps.
En même temps.
Est-ce qu'il y a un dessin dont vous êtes plus fier qu'un autre parmi les 150? Non, mais est-ce qu'il y en a un où vous dites, celui-là quand même...
C'est compliqué à dire, Nagui. Comment je pourrais m'auto-féliciter moi-même? En
fait, non, pas s'auto-féliciter, mais...
Non, alors s'il y a une chose dont je suis content... Non, il y a une chose dont je suis assez content, c'est que c'est qu'en fait je me suis dit que j'avais envie de faire ce livre et que comme j'ai eu du succès avec l'Arabe du futur et Cahiers d'Esther, ils oseraient pas me dire non quand j'allais leur demander d'illustrer le livre. En fait, j'ai contacté Gallimard et la famille Saint-Exupéry, les ayants droit, et en fait c'est pas qu'ils ont pas osé me dire non, c'est qu'ils étaient contents de me dire oui, et donc je me suis lancé dans le livre. Et en fait, je suis très content du dessin de la couverture. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a le droit de dessiner sur la couverture d'un livre de la NRF.
Ah,
d'accord.
Et c'est Antoine Gallimard qui me l'a dit. Et en fait, je ne savais pas du tout. Et j'étais hyper content de ce truc qui s'ouvre. Vous pouvez l'ouvrir en grand et ça fait un très grand dessin.
Et ça, voilà, l'afficher chez vous.
Et ça fait donc. Surtout, ça représente encore une fois les intempéries, les trombes d'eau, les colonnes de pluie.
C'est la vie, Nagui.
Je crois que c'est. Non, mais c'est l'image qui est employée par Syntax d'ailleurs. Ce sont ces colonnes en se disant. Que ce soit du côté de la cordillère des Andes ou dans le désert libyen, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté des nuages. Interdiction de franchir une espèce de plafond aussi, la peur de l'inconnu.
Oui, c'était la première fois en plus à cette époque-là où l'être humain se confrontait avec ce qu'était la Terre. On n'avait jamais vu la Terre vue du ciel à l'époque. Et donc on ne savait pas à quoi ressemble un nuage vu du dessus, on ne savait pas à quoi ressemblait la pluie quand on la voyait. Enfin, c'était vraiment une exploration totale de la réalité qui était une illumination. Et on essayait d'analyser. Et ça ressemble beaucoup à la vie, quand on découvre la vie, de tous les sentiments. Enfin, moi, je crois que c'est la métaphore de l'existence que j'adore dans ce...
Alors, c'est son côté philosophique, justement. C'est qu'il y a un regard sur la nature, sur les relations humaines, sur la technologie, encore une fois, qui est assez tendre et, encore une fois, tellement bien écrit.
C'est
agréable à lire.
Et je crois qu'aussi que ce qui fait que c'est un grand livre, en tout cas personnellement, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que il a été fait par entre guillemets inadvertance, parce que c'est une compilation de petits articles autobiographiques qu'il a réunis dans un livre. Et donc il a pas réfléchi en se disant je vais écrire un chef-d'œuvre ou je vais faire quelque chose de définitif. Et donc tous ces textes mis bout à bout, ça ressemble aussi à la vie. C'est à la lectrice, au lecteur d'essayer de trouver le sens dans cet amoncellement. Et je trouve que c'est vraiment très, très puissant.
Est-ce que ça vous a donné envie de continuer d'illustrer d'autres ouvrages?
Mais complètement. Mais moi, je rêve de faire Vol de nuit. Vous en parliez
génial,
tout à l'heure.
Génial, j'adore.
J'espère le faire l'année prochaine. Ouais, non, j'adore. Puis vraiment, faire ces dessins pour Saint-Exupéry. C'est le truc qui m'a rendu le plus heureux ces 20 dernières années. J'étais beaucoup plus heureux de dessiner ça que l'Arabe du futur où j'ai souffert horriblement. Oui. Et là, c'était vraiment un bonheur incroyable. J'avais l'impression de rendre. Enfin, je sais pas comment. C'était un rêve d'enfance, vraiment.
Mmh. C'est vrai que vous avez le portrait de Saint-Exupéry?
Ah oui, complètement. Ouais. Alors, ça peut paraître prétentieux ou débile, mais il est dans mon bureau.
Ouais.
Et en fait, je l'ai depuis 20 ans. Et il a vraiment une tronche bizarre. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oui. Il a des petits yeux comme ça avec des yeux un peu de chameau comme ça.
La manière dont vous le dessinez n'est pas très valorisante.
Bah non, mais c'est aussi ce que j'adore chez lui, c'est qu'il était un peu moche quand même. Ouais, enfin, c'est quand même bien admettre.
Oui.
Et il est en face de moi comme ça.
C'était relatif.
Non, mais. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte. Que, disons, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une tête de papy, et je me suis dit, quand même, il perd ses cheveux, c'est, enfin, je sais pas pour en reparler, mais.
Il n'y a pas de souci, Riyad.
C'est admis. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que j'étais devenu plus vieux que lui sur la photo. Oui. Et que moi aussi, je perdais mes cheveux. Moi aussi, j'ai des golfs et tout. Et je me suis dit, tiens, mais je me suis senti autorisé de...
Je suis plus vieux que lui, j'ai le droit.
Plus vieux que lui, c'est comme s'il était plus petit que moi. Je me suis dit, bah, après tout, j'ai eu du succès. Moi aussi, tiens, je vais faire ce rêve de d'illustrer son livre. Voilà.
Et dans les rapports qu'il a avec la nature, c'est une chose, mais les rapports qu'il a aussi avec les autres, ceux qui restent au sol. Là aussi, il a, dans ses rencontres, dans ceux qui lui sauvent la vie, aussi une connexion assez particulière.
Oui, oui. Et puis, alors, c'est vrai que dans mon cas personnel, qui avait grandi en Syrie, dans une société musulmane très traditionnelle, de paysans, etc., j'avais été extrêmement frappé de la manière dont il décrivait le monde arabo-musulman, ouais. la tolérance qu'il avait, qui ne correspondait absolument pas à la tolérance pour ma famille vis-à-vis de. Enfin, il était extrêmement. Il a essayé d'apprendre la langue, il avait été engagé par l'aéropostale pour essayer de devenir ami avec les chefs des tribus morts pour qu'ils arrêtent d'enlever les pilotes qui avaient des problèmes dans le désert et de les tuer. Donc il y a quelque chose de très tolérant et de très positif dans son rapport à l'autre être humain. Essayer de les comprendre sans les juger, sans les. C'était un livre incroyablement positif.
Tout à l'heure, au-delà, je le disais, il y a cette fameuse signature, la phrase, entre guillemets, qu'on a beaucoup retenue, celle d'avoir un Mozart assassiné. On a tous en nous un Mozart assassiné. Il faut simplement aller par l'éducation, par les opportunités, le découvrir. C'est la seule phrase que vous retiendriez, vous, de Terre des Hommes, ou il y a une autre phrase clé?
Non, moi, je crois que le truc que je retiendrais de Terre des Hommes, au-delà de ça, c'est, par exemple, si on adore Le Petit Prince, ça n'a rien à voir avec une phrase, mais je trouve ça stupéfiant de voir à quel point Le Petit Prince est déjà présent dans la vie de Saint-Exupéry, dans ce livre, et il n'en a pas conscience, parce qu'il va l'écrire après, quelques années après. Et il y a tout dans Terre des Hommes, notamment la fin. Alors sans trop la divulgâcher, mais j'avais été stupéfait, parce que quand je l'ai relu pour l'illustrer, j'avais complètement oublié la dernière image qui... où il rencontre une sorte de petit prince tout à la fin. Et je crois que ce qui est stupéfiant, c'est de voir à quel point une œuvre qui peut être universelle et parler au plus grand nombre préexiste dans un auteur avant qu'elle se soit exprimée. Et je trouve que c'est très présent dans...
Vous avez un peu le sentiment que Le Petit Prince a fait de l'ombre aussi à Terre des Hommes et à...
Oh, certainement, non, mais aussi c'est bien. Enfin, tout le monde a grosso modo un avis sur Le Petit Prince. Il y a des gens qui vénèrent ce livre, des gens qui le détestent. Moi, je sais que depuis que j'ai sorti Terre des Hommes, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, je peux pas blairer Le Petit Prince. » Je savais pas du tout qu'il avait écrit un truc assez génial.
Et parce qu'en fait, Saint-Exupéry, c'est un auteur qui est pas très lu. En réalité, au-delà du Petit Prince...
les gens connaissent moins ses récits.
C'est un auteur français, mais qui est pas très, très encensé. En fait, pour ses autres
quand
textes.
Même, quand
non,
même.
Non, mais pour les connaisseurs, mais oui, en réalité, vrai. Si on fait un sondage, au-delà du Petit Prince, peu de gens ont lu du Saint-Exupéry.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi, voilà, c'était une manière de rajouter des dessins dans,
c'est réussi.
Dans son.
Ouais, c'est ouais. réussi. C'est, d'abord, c'est extrêmement bien illustré. C'est, ça évoque justement aussi ces ombres, ces lumières dans lesquelles il peut se retrouver, ces moments de doute personnel aussi. Et puis surtout, ça nous donne l'occasion de relire Terre des Hommes.
Lire tout court.
Superbe. Ouais, ou de le lire pour la première fois. Publié chez Gallimard, donc Riyad Satouf illustre Terre des Hommes. Voici Julien Santini.
Ah oui, voilà, quelle chevelure!
Le lion.
Merci beaucoup, c'est la chronique de l'homme au lobe, c'est la chronique de l'homme sans cheveux, mousse coiffante et fait friser. Nagui, coucou Leïla, coucou Nagui.
Salut.
Coucou Riyad et coucou les intermittents du spectacle et bien entendu, coucou à nos chères auditrices et auditeurs sans qui nous sommes des merdes. Figurez-vous que la semaine dernière,
j'en peux plus.
C'est un gag visuel aussi. J'ai fait ma rentrée. Oh mais je vous vois venir, rentrée, mais tu n'es plus à l'école, même si je suis resté un grand enfant. enfant, dans un corps de vieux. Et c'est toujours mieux que l'inverse, selon la loi en tout cas. Bref, merci Oldelaf, j'ai fait ma rentrée dans un club de squash. Et c'était super sympa. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois que dans ma vie d'adulte, je m'inscris à un cours collectif et je suis pas forcément très à l'aise avec le système où on est plusieurs élèves à écouter un professeur et avec l'humanité en général. Je me sens très vite jugé. Faut savoir que moi, j'ai été en échec scolaire quand j'étais jeune. J'ai pas eu le bac et c'était douloureux parce que mon père voulait vraiment que je réussisse à l'école. Mon père, il rêvait même que je fasse Polytechnique. Et je vous le dis, tu veux faire Polytechnique, tu n'as pas le bac, c'est très handicapant. Dès que le cours de squash a démarré, j'étais très stressé, mais le professeur m'a mis à l'aise. C'est Youssouf, le professeur. Je l'adore, il a trop la classe. Il ressemble à Denzel Washington, mais Youssouf, il est de Romainville. Donc, au final, vachement moins américain que Denzel. On s'aime beaucoup, mais je reste méfiant. Je lui ai donc demandé ses origines. Et ça n'a pas manqué. C'était Centrafrique. Alors, oui, ce que je viens de faire, c'est du racisme, mais c'est du racisme bienveillant. Et il m'a répondu, je perds Leïla, mais je vais te reconquérir, ma beauté. Il a répondu Centrafrique. Il a répondu Centrafrique. Écoutez, c'est très important parce que je lui ai dit, non, d'accord, Youssouf, mais quel pays? Et il m'a dit, c'est Centrafrique. J'ai dit, non, mais d'accord, mais là, c'est un continent. Quel est le pays? Et j'ai au moins le mérite de parler avec mon cœur. Et il m'a dit, mais Centrafrique, c'est Centrafrique. Et moi, je ne savais pas et je me suis senti très con parce que je ne savais pas que la Centrafrique, c'était un pays. Alors, je sais que les auditeurs et auditrices vont me juger très fort, et vous aussi, Leïla Nagui. Après, Leïla, c'est normal, tu es une grande journaliste, mais Nagui, voilà, je pensais qu'on se ressemblait plus au niveau de la culture G. Et moi, j'ai honte parce que je sais qu'en plus, les auditeurs et auditrices, ils vont dire, mais c'est quoi ce cliché de français, déjà qui connaît rien à l'histoire, c'est quoi ce cliché de français colonisateur en plus? Puisque j'imagine, même si je ne me suis pas beaucoup penché sur le truc, que forcément, la France a dû coloniser la Centrafrique. Mais moi, je ne peux pas être colonisateur parce que je viens de Corse. La Corse, Riyad, qui a trop longtemps vécu sous le joug d'un état colonisateur. La France, qui depuis deux saisons, sur le plan politique, s'est pris pour un club de foot qui vient de limoger cette semaine son 8e entraîneur. En tant que descendant de Pascal Paoli ou Babou Diabadria, allez, je reviens à mon cours de squash. C'est quand même le fil conducteur de ma chronique et j'en ai marre qu'on me taxe de TDAH. Alors, on a commencé le cours, c'était très intéressant parce que Youssouf, il a dit, vous allez passer dans l'ordre l'un après l'autre. Youssouf nous a alors expliqué, un terrain de squash, c'est comme une montre. Mettez votre raquette à 18h, frappez à 15h, tout en positionnant votre regard à 9h. Posez-moi la question, est-ce que la consigne était claire? Parce que je crois que la consigne était plutôt claire, Julien, as-tu compris cette consigne? Vous ne me posez pas la question, je vous donne quand même la réponse. C'est non. Voilà. Heureusement, je ne suis pas passé en premier. Le premier à passer, il s'appelait Hippolyte. Après, ce n'est pas très grave, hein, il n'est pas responsable. Déjà, physiquement, je ne l'aimais pas beaucoup. Il avait ce physique de droite. Le cliché du gars qui bosse dans la finance et qui va dire, oui, d'accord, mais qui c'est qui crée la richesse? C'est les entreprises, c'est les patrons. Alors non, Hippolyte, déjà, on dit ce sont, et ensuite, ce sont beaucoup les employés. Et là, c'est le moment de la chronique où la direction France Inter va se dire, au final, Santini, bonne pioche. Il n'est pas que beau. Hippolyte avait beau avoir fait HEC, c'était une merde en coup droit. Et après lui, c'était mon tour. Et moi, je savais que j'avais pas compris comment... je savais que j'avais compris. Je fais un AVC, embrasse-moi. Je savais que j'avais compris comment lire l'heure avec ma raquette, mais j'étais quand même stressé. J'étais comme le bon élève à l'école qui disait « Ah, mais là, c'est sûr, je vais me planter !» Et il avait toujours 18. Du coup, à la fin, ça me donnait envie de le planter, lui. Je fais donc l'exercice demandé par Youssouf, et j'étais tellement en confiance, juste avant, j'ai dit « Hey, wait and see !» Et bam, je le réussis. Je vais être honnête, les 15 cours particuliers que j'avais pris cet été avec Youssouf ont peut-être porté leurs fruits. J'ai légumes. Et je peux vous dire, que c'est dur de passer après moi, c'est dur de passer après cette vanne, c'est dur de passer après quelqu'un qui enflamme le dance floor, et c'est pas Emma tout à l'heure qui va me contredire. Après moi, ce fut au tour de Léandre. Je suis désolé, je vous sors des blases, je sais que là vous vous dites, est-on vraiment dans le 93? Racisme bienveillant, putain, j'avais prévenu, merde, vous ne comprenez pas les consignes. Léandre, purée, il était naze comme son prénom. Youssouf, il avait beau lui dire, non Léandre, là tu frappes à midi, frappe à 15h. Non Léandre, regarde à 9h, tu es à 11h. Et là, vous savez quoi? On est comique ou on n'est pas comique? J'ai tenté un. Peut-être que Léandre, il est en décalage horaire. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de rire. Mais moi, je vais vous dire, ça ne m'affecte pas trop parce que ça me fait penser à quelque chose que je connais en venant ici toutes les semaines. Mais moi, je trouve, en sport comme dans la vie, peu importe de rater ses coups, peu importe la réussite de son billet d'humeur, tant que
que ça vient du cœur.
Merci, Julien Santini.
Bon, il m'a accusé.
Moi, c'est pas ma journée, ce vendredi, vivement le week-end. Hein. Entre l'autre qui m'appelle l'arabe du passé et lui qui compare sa culture générale à la mienne, il t'appelait ma beauté, hein, t'as rien dit.
Non, mais je peux plus.
Il a essayé de m'embrasser aussi, il a essayé de m'embrasser.
Ouais.
S'il faut tout relever.
Ouais, c'est clair.
Bon, on va le garder un petit peu quand même. Bon, à la Gaîté Montparnasse, comme tous les vendredis. Demain, à Aubervilliers, à l'Embarcadère, le 15 octobre à Liège, pour son fantastique spectacle Brushing.
Antoine de Saint-Exupéry, romancier, oui, pilote d'aviation, va justement parler de l'histoire de l'aviation, des pionniers de l'aviation avec Michel Polaco, qui sera notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, la musique, il n'y a pas que du Mozart. Pas beaucoup de musique hein, chez Antoine de Saint-Exupéry, à part la référence à Mozart. Et dans la vie qu'écoute Riyad Satouf, on est par exemple, et ça va faire plaisir à certains autour de cette table, en 84.
Oh. Eh oui.
Ah oui,
bravo. Il voyage, ah, non.
Est-ce que t'as reconnu Adelaf?
Bah, Goldorak, bien sûr.
Ouais.
Mais en quelle langue?
Japonais?
Non, justement. Bah, non. Salam. Bah, salam, en arabe.
Ouais.
En arabe, bah oui.
Goldarab.
Oh
waouh. Pardon. Léla, Léla, commentaire.
Non,
je suis perdu, moi. Pourquoi on a le droit et pourquoi on n'a pas le droit, en fait, dans cette émission?
Qu'est-ce que tu fais après ça?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Maggie,
je suis là.
On est en 84. Bon. On est en 84.
Disons, l'arabe du présent, il fait rêver.
On est en 84, Riyad. Vous êtes en Syrie. Vous découvrez, vous le racontez, et ça m'a beaucoup fait rire, vos cousins syriens, en disant que ce n'étaient pas des enfants, c'était des petits hommes. Ils étaient, alors j'ai adoré le détail dans l'interview. Ils étaient capables d'aller d'un point A en point B sans changer d'avis. Comme si les enfants, de toute façon, sont complètement débiles et qu'ils partent pour faire quelque chose et puis en fait, ils vont faire autre chose.
Oui. C'est un... Enfin, je sais que j'ai des enfants et j'ai un garçon qui a 10 ans. Et là, il voudrait sortir tout seul du collège pour
revenir à la maison.
Rentrer. Et moi, c'est mort, c'est interdiction. Et quand je pense à mes cousins qui avaient 7 ans et ils faisaient 10 km pour aller je ne sais pas où dans les champs, ils se perdaient, ils revenaient.
Les dangers sont une autre pas les
façon. C'était pas le même. Oui, c'est vrai,
les dangers sont pas les mêmes. Ouais.
Et vous dessinez déjà à l'époque?
Oui, complètement. Ouais. Complètement fasciné par le dessin.
Déjà. Et vous dessinez ce que vous voyez là-bas? Vous
avez pas du tout. Je dessinais des trucs pour impressionner mes cousins. C'est-à-dire, je dessinais Goldorak, par exemple. Ils me respectaient plus quand ils voyaient que je savais.
Est-ce qu'on commence par la copie? Est-ce qu'on a des photos, d'autres dessins devant soi et on essaye de les imiter, même au calque peut-être, de retrouver?
Oui. Moi, je sais qu'en Syrie, il y avait beaucoup de dessins animés japonais qui passaient à la télévision, doublés en arabe, comme Goldorak, mais il y en avait d'autres. Et donc, c'est vrai que...
Le calque sur l'écran de la télé, c'est dur.
Mais voilà, c'était... Et on essayait de dessiner les personnages, et c'était vraiment une manière de se faire remarquer très fort. Ouais.
Et quel est le trait de dessin qui vous marquait à l'époque? C'était la ligne claire? C'était le dessin de manga, justement?
Ah non, c'était Tintin, oui. Moi, Tintin. C'était vraiment Tintin, la lecture des premiers Tintins.
96, vous écoutiez Aerosmith. Musique vous renvoie à quelle période de votre vie?
C'est le bac horrible. Une période horrible.
Le bac horrible.
Ouais, mais vous le décrochez, votre bac littéraire. Avec déjà cette envie de faire du dessin, même si vos résultats, je crois, n'étaient pas très très bons.
C'est pas vrai.
Il fallait pas qu'il y ait une autre année supplémentaire après la terminale.
Oui, ça descendait trop. Ça descendait trop. Le dessin dessiné, qu'est-ce que ça vous procure? On parle toujours de ce que le chant procure au chanteur, à savoir une sorte de bien-être, de décontraction, comme si c'était une sorte de massage un peu interne. Le dessin, si on devait le décrire d'un point de vue physique.
C'est vraiment une sorte d'auto-hypnose. Et c'est drôle parce que souvent, quand je fais des rencontres en librairie, etc., que je dessine, les personnes qui regardent se faire le dessin, la première chose qu'ils disent, c'est « Ah, moi, je ne sais pas du tout dessiner » ou « Je ne sais pas comment vous faites pour dessiner toute la journée, par exemple. Moi, j'y arriverai pas. » Et je suis toujours stupéfait de comment le fait de faire un trait peut générer une image qui nous emporte. Je sais que quand j'étais tout petit, j'avais une cousine en Syrie qui m'avait dessiné un bateau, et vous savez, en faisant les vagues qui passent devant la coque, oui. Les dessins qu'on fait. Et si, enfin, c'est incroyable. Enfin, je sais pas, quand j'y repense, même encore aujourd'hui, je trouve ça incroyable qu'avec un simple trait comme ça.
Ce que vous avez fait pour la couverture de Terre des Hommes, pardon. Hein.
Comment on pourrait penser tout de suite que c'est la mer? Enfin, ouais. Je sais pas. Il y a un truc d'hypnose et d'apaisement immédiat.
Donc vous êtes le bateau qui donne un indice.
et les poissons sous les vagues. Voilà,
c'est... le pauvre.
Ouais, c'est une bonne indication.
C'est pour ça qu'il est toujours zen, en fait.
Oui.
On devrait prendre votre tension à un moment différent de la journée.
Pas de tension du tout, là.
Ben voilà, pas de tension.
Mon médecin hyper impressionné.
Ah ouais, ouais. C'est incroyable.
En 2003, vous écoutiez Ria Sato.
Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido volando.
C'est malin parce qu'il nous emmène sur la Terre des Hommes aussi, côté... Amérique latine,
oui, c'est vrai.
C'est
ouais,
malin.
C'est vrai.
Manu Chao Desaparecido, et c'est le premier contrat, Leïla.
Voilà, il faut une première fois. C'est les jolis pieds de Florence que vous sortez d'un premier tome d'une série. C'est votre premier contrat chez Dargo. Vous dites que à chaque fois que vous signez un contrat, vous repensez à ce jour-là.
Mais oui, parce que c'était la première fois que un éditeur acceptait que j'écrive l'histoire et que je fasse le dessin en même temps. Mmh. Et donc j'ai eu le sentiment de. Alors, il y en a certains qui peuvent avoir l'impression de signer un pacte avec le diable. Ou, dans certains cas, moi, j'avais l'impression d'avoir signé un pacte avec la vie. Enfin, je ne sais pas comment... C'était incroyable de... C'est comme si quelqu'un me laissait voler tout seul.
Ça s'appelle la liberté,
la liberté, voilà, ouais. Un peu. C'était... Je ne croyais pas que c'était possible. Disons que comme je suis originaire d'une famille où vraiment personne n'était artiste depuis la préhistoire, il y avait vraiment un côté... transgressif total et en même temps j'échappais à une sorte de destin.
De destin, ouais.
Justement, à propos de cet envol, Michel Polaco nous a rejoint. Ah. Bonjour Michel, merci Bonjour. De Bonjour, revenir Michel. À ce micro. Vous avez Bonjour. Été journaliste de nombreuses années à Radio France, rédacteur en chef à Inter et directeur de France Info, passionné.
Ah si
de...
Michel, si, faites pas ça.
Bah, c'est vrai, non
et oui. Ah, c'est tout à fait vrai.
Bah, voilà. Voilà, tout va bien. Vous avez signé l'histoire de l'aviation aux éditions Gund. Quand on dit que Terre des Hommes est un hommage aux pionniers de l'aviation, c'est la référence pour les pionniers de l'aviation ou...
C'est une des références. Parce qu'il y a Courrier Sud, il y a Vol de Nuit, ouais. Qui sont quand même deux ouvrages majeurs.
Toujours de
syntaxe. Qui arrivent avant Terre des Hommes. Mmh. Terre des Hommes, c'est déjà un aboutissement. Hein. Ça va être une des dernières œuvres avant Le Petit Prince. Et ça va précéder Citadelle, qui va être publiée de manière posthume. Syntex a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Je vous entendais dire tout à l'heure qu'il était inconnu ou peu connu. Évidemment, moi, je ne suis pas de votre génération. Je suis un vieux par rapport à vous. Et moi, il fait partie de ma littérature de jeunesse et de ma littérature d'enfance.
Mais moi aussi, je vous rassure.
Il a été
je suis un vieux comme vous. Hein.
Il a dû être traduit en 180 langues, Saint-Exupéry. Il a
Est-ce
vraiment été lu de manière universelle.
Est-ce
partout.
Que c'est fidèle Est-ce que c'est fidèle à ce que l'on a comme image des pionniers de l'aviation? Vous avez écrit l'histoire de l'aviation. Est-ce que, par exemple, à relire Terre des Hommes grâce à Riyad Satouf, je me suis retrouver dans ces moments où Saint-Ex était à bord d'un avion ne sachant pas quelle est la lumière qu'il était en train de voir, si c'était le phare d'un port Absolument. Ou au contraire des lumières d'un aéroport ou d'un aérodrome et au risque, à risquer sa vie
ça c'est l'accident en Libye ça.
En se dirigeant vers des lumières qui peuvent être des erreurs. Non mais ça c'est vraiment le vécu des
c'est véritablement le vécu c'est magnifié parce que Saint-Exupéry a un regard. Il a une capacité à voir à la fois l'homme, la nature. C'est un ouvrier pilote. Hein. Faut pas oublier qu'à l'époque, ces gens-là, ils sont traités difficilement,
ouais.
durement. C'est ouais. Didier Dora, c'est pas un chef tendre. Plus de 100 pilotes vont mourir à l'aéropostale ou aux lignes Latécoère. On les fait passer par la mécanique, comme Mermoz et les autres. Puis ensuite, on les envoie dans le mauvais temps. Et il faut traverser les Pyrénées, l'Espagne, etc. Et ils risquent sans cesse leur vie. Et quand ils sont dans leur bus au petit matin pour quitter le grand balcon à Toulouse, sous la pluie la plupart du temps, en se demandant s'il va y avoir une éclaircie, ces gens, à chaque fois, partent vers la mort. Mais la plupart d'entre eux, je vous dis, ce sont des ouvriers pilotes. Ils partent au boulot, ils risquent leur vie, certains ne reviennent pas. Et quand ils ne reviennent pas, tout le monde est triste. Et on passe à la suite, on Parce continue.
Dire, on n'est pas, on est pas si triste que ça. C'est-à-dire qu'il marque un moment en disant « Ok, bah, il n'est pas revenu. Et
oui, parce que
assez rapidement,
ça va être mon tour.
Oui, voilà.
Oui, ça va être mon tour. Donc, comme ça va être mon tour, bah, voilà, il y a ceux qui arrivent à en ressortir et ceux qui n'en ressortent pas. Saint-Exupéry, lui, il a une vision tellement universelle, tellement globale de tout ça, qu'il est capable de raconter ce qui se passe dehors, mais ce qui se passe dans les esprits, dans les cœurs, dans les têtes. Quand il raconte l'aventure de Guillaumet dans les Andes, c'est absolument magnifique. Ouais, ouais. Mais Guillaumet lui-même n'a pas su le raconter comme ça. Il le lui a raconté. Mais celui qui a su l'écrire, c'est Saint-Exupéry, comme son accident au Guatemala, ou surtout son accident en Libye, qui est absolument magnifique, et comme vous le disiez tout à l'heure, qui est un prélude à ce qui va être ensuite Le Petit Prince. Donc, tout ce qu'on lit de Saint-Exupéry, on peut le retrouver aujourd'hui, tous les jours dans notre vie. C'est véritablement universel. Moi, il reste, je dirais, mon guide, ou un de mes guides. Pour moi, il est à la fois un philosophe et un technicien, parce que c'était un technicien, Saint-Exupéry. C'était pas un brillant intellectuel, c'était un mathématicien, parce qu'il était passionné par les sciences et les mathématiques.
C'est un poète qui aimait les machines.
Hein ?
C'est un poète qui aimait les machines.
C'est un poète qui aimait les machines, et qui aimait savoir comment elles marchaient, et qui a écrit, d'ailleurs, vous savez qu'il est l'auteur de plus de 35 brevets sur des outils qui vont servir à l'aviation.
Alors justement, les outils, ils n'étaient pas tellement au point quand ils risquaient leur vie, le fait de se dire, est-ce que j'aurais assez de, alors je sais pas si c'était du fuel, du gazole,
d'autonomie, d'essence,
oui, voilà. En fait, ils jugeaient tout à l'heure, en se disant je peux encore voler 40 minutes sans trop savoir ce qu'il y avait dans le réservoir. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des vue-mètres partout, comme
il n'y a pas d'instrument.
Comme Ryanair en ce moment. Hein.
Oui,
juste la limite.
Si vous voulez, mais alors je peux vous dire qu'ils sont mieux équipés chez Ryanair. Non, il n'y avait quasiment rien dans les avions à cette époque-là. Il n'y avait même pas ce qu'on appelle un horizon artificiel, alors, qui aujourd'hui est l'outil de base. On ne sait pas piloter sans un horizon artificiel. Un gyroscope qui nous dit si on tourne, si on va tout droit, si on monte, si on descend.
Mais c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il raconte en termes des hommes, avec des moments en se disant mais je croyais être à l'horizontale, me rendais compte que j'étais en train
Et vous savez, beaucoup sont morts à cause de ça. Beaucoup sont morts à cause de ça. Perte de référence visuelle, c'était quelque chose de très courant dans ces temps-là. D'ailleurs, Didier Dora, à l'époque, on leur interdisait de voler au-dessus de la couche noiseuse. Parce qu'on leur disait, vous ne saurez pas la traverser et vous en mourrez. Alors qu'aujourd'hui, la première chose qu'on dit à quelqu'un, c'est surtout ne volez pas à proximité du sol, au contraire, utilisez vos instruments, même si vous n'êtes pas qualifié,
et mettez-vous au-dessus,
volez dans les nuages ou au-dessus. Voilà.
Et vous êtes pilote ?
Je suis pilote depuis plus de 50 ans.
Qu'est-ce que l'on ressent quand on décolle, quand on traverse des nuages et qu'on est justement au-dessus de ce lit de coton ?
Alors, toujours un grand bonheur. Là, franchement, là, vous choisissez l'image qui est peut-être la plus belle image. Moi, je vole depuis 50 ans, 55 ans. Quand vous commencez à voler, bon, évidemment, vous découvrez les prémices, mais le jour où vous commencez à entrer dans les nuages, à faire du vol de nuit, à traverser la couche nuageuse, puis à un moment donné, vous émergez et vous voyez cette mer de nuages qui est absolument magnifique, à certaines heures qui est éclairée, c'est-à-dire qu'il fait jour au-dessus, il fait nuit en dessous. Vous vous sentez à la fois libre et à la fois puissant. Vous avez l'impression que vous vivez quelque chose que peu de gens peuvent s'offrir. Le passager dans un avion, quand il émerge de la couche de nuages, il peut trouver ça beau, mais il ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut pour arriver à ça en sécurité. Alors que le pilote, lui, il sait que quand il va la traverser dans un sens, ça va être le grand confort, mais quand il va rentrer dans cette couche pour aller se poser et qu'il va falloir à un moment donné rentrer dans la grisaille jusqu'au moment où on va peut-être apercevoir les feux qui précèdent la piste puis l'entrée de la piste, il y a toujours un petit sentiment d'inquiétude.
Il n'y a pas un côté trompe-la-mort aussi quand on fait ça un peu.
Il y a des trompe-la-mort, mais vous savez, là, malheureusement, les trompe-la-mort sont souvent dans les cimetières. On dit souvent, il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. C'est injuste parce qu'il y a aussi des bons pilotes qui sont morts, mais il est vrai que ceux qui sont téméraires, même si parfois ils ont fait des exploits, sont des gens qui vivent rarement longtemps.
Vous en parlez bien et vous l'écrivez aussi, l'histoire de l'aviation aux éditions Grund. Merci Michel Polaco d'être venu nous partager votre passion et votre admiration.
Merci de m'avoir offert le plaisir de parler de Saint-Exupéry, de rencontrer Riyad Satouf et votre équipe.
Et toujours la voix, une voix de radio, on l'a toute sa vie, ça fait plaisir.
J'organisais des voyages à la demande sur les Balkans.
Moi non, mais je peux vous trouver quelqu'un, je connais des gens chez EasyJet.
Voici Emma Vaugean.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à la musique. La musique. La musique, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et puisqu'on est sur une radio généraliste, on va rappeler à nos auditeurs et nos auditrices quel est le concept. Ouais. Et pour ça, nous sommes en duplex avec Oldelaf. Oldelaf, est-ce que vous nous entendez? Aïe, aïe, aïe.
Oui, tout à fait, Emma. Oui. Je vous entends.
Il y a le décalage. Oui.
Ouais. Super. Et alors, vous vouliez nous montrer ce que c'est que la musique, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est ça, Emma.
Ouais. Très bien. Et alors, allez-y, Olivier, on vous écoute.
Ok, j'y vais.
Non, ce n'était pas le radeau.
Merci beaucoup, Aldelaf. On reviendra vers vous. La musique, c'est fondamental et c'est un des piliers de notre société. C'est même un des sept arts majeurs, selon le critique Rocchicchio, bien sûr. Bah, attends, évidemment, ça, Canudo, hein, on les connaît. Hein. Alors, en un, c'est l'architecture. En deux, la sculpture. Mmh. En trois, la peinture. En quatre, la musique. Après, j'ai pas noté, mais il en reste trois, donc ça doit être grincheux, Hachoum et Saint-Pé. Hashtag fan de Sinoche. Hashtag septième art. Bonjour, Savos. Et à la et bienvenue dans cette rubrique Musique de Star. Moi, je m'appelle Smuriel et j'adore la musique. Alors tout le monde m'appelle Mumusique, lol. Aujourd'hui, on va décortiquer la carrière musicale du chansonnier Patrick Fiori. Ou alors, devrais-je dire Patrick Fury, car il est inarrêtable. J'adore lui et Calogero, les deux icônes des musiques. À la semaine prochaine pour les rubriques Musique de Star. On parlera notamment du chorégraphe et mannequin Boudère. La musique, c'est fabuleux. C'est la fin de ma blague. La musique, c'est fabuleux, parce que c'est avec la musique qu'on danse, avec la musique qu'on chante, c'est avec la musique que j'ai pécho Enzo Marciani au bal des pompiers de Gujan-Mestras cet été. Après la mouclade, on a poussé les chaises et alors quand j'ai entendu le DJ lancer du section d'assaut, j'ai directement Wati sucé Enzo. J'aime trop la musique, tout mon respect monsieur. J'aime trop, je n'assume plus du tout mes blagues maintenant, tout mon respect pour vous. J'aime trop la musique et moi j'aimerais trop être DJ. Ok, alors c'est pas très radiophonique, mais là je suis en train de mixer. Je tourne les petits boutons ou quoi? Regarde Daniel, tu vois, je mixe. Toi qui disais que j'y arriverais pas, que ça servait à rien de me payer 7 800 € de matériel. Regarde où j'en suis maintenant. Moi je mixe à la radio. Alors c'est qui l'adolescente en crise? Oh pardon, j'ai mis trop d'ambiance. Ça fait sauter les plans. Ok, pardon. Alors il va falloir qu'on change d'ambiance et de délire.
La musique pour moi c'est une lumière qui guide. Un souffle, une alliée quand la vie se décide. C'est des mots qui résonnent, un tempo qui rassure. Une force qui s'installe, même dans les blessures. La musique pour moi c'est la voix de mon père. Un piano dans le salon, des accords dans l'air. C'est des dimanches entiers rythmés par ces chansons. Un héritage discret mais gravé dans ma maison. Oh pardon, je suis en train de devenir premier degré. Oh là là, oh la boulette. Ça c'est un des rares trucs que mon père m'a jamais appris, être premier degré. Et quand je pense à la musique justement, je pense à lui et au fait de ne jamais se prendre au sérieux. Mon père m'a toujours dit cette phrase, souvent dans la vie, ma fille, c'est important, mais c'est pas grave. Alors cet hommage, papa, il est pour toi. Merci de m'avoir écouté. Yeah,
bravo.
Ton papa, homme de radio, parce que j'ai eu la chance de le croiser à la radio.
Il dit pas la même chose quand il parle de toi.
Ouais, c'est vrai.
Emma, sur
d'ailleurs,
scène.
Et d'ailleurs, il ne parle pas de moi.
Tous les vendredis à 21h en Mathurin pour son fabuleux spectacle. Allô, Enzo.
Terre des hommes, Riyad Satouf, avec ses histoires d'amitié aussi, parce que, en effet, la terre est présente, les orages, les conditions climatiques, les colonnes de béton qui se dressent devant eux, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir passer de l'autre côté d'une montagne. Ils ne savent pas d'ailleurs s'il y a une montagne de l'autre côté des nuages. Mmh. On ne se rend pas compte de tous les dangers par lesquels ils sont passés, ces aviateurs. Et puis, il y a l'amitié, il y a je sais pas, l'admiration, la confrérie, comment les qualifier d'ailleurs entre eux.
Peut-être une fraternité, une camaraderie. Mais il y a aussi quelque chose que j'adore chez Saint-Exupéry. Qui est que en fait il a écrit quelque part, alors je parle sous le regard de Michel Polaco,
ouais,
mais il a quand même écrit son propre mythe. Je sais pas, il a mythifié complètement cette période. C'est devenu il a raconté sa propre légende et je trouve que c'est très émouvant de comme le disait Michel, c'est pas Guillaumet qui a raconté sa vie ni Mermoz qui a raconté ses exploits,
parce qu'il le racontait mieux, Saint-Exupéry.
Ben voilà, ouais, mais c'est-à-dire il s'est dit, mais moi si je raconte pas ce qu'on a fait l'héroïsme. À cette époque-là, ce qu'ils ont fait, etc., ce sera perdu. Et il y a quelque chose de vraiment génial dans cette attitude.
Michel fait non de la tête, une réaction.
Chez Gallimard.
Non, au contraire, j'approuve.
Chez Gallimard, Riyad Sattouf signe Terre des Hommes. Tanguy Pastureau, de quoi veux-tu parler ?
Je vais vous parler d'un projet de loi interdisant la pornographie, l'érotisme, mais aussi les VPN. Ça se passe dans le Michigan. Ouf, nous, on peut continuer à profiter de la vie.
On en parle et on parle avec Riyad Sattouf de Syntex jusqu'à midi. La bande originale avec Leïla Kadouboudadi, avec Lisa Delmoitier, avec Emma Beaujean, Tanguy Bassureau, Julien Santini, Oldenhoff, Daniel Morin.
Coucou Santini.
Et notre invité, Riyad Sattouf. J'ai failli dire, et notre invité, Antoine de Saint-Exupéry, c'est trop la classe. Riyad Sattouf, est-ce que vous avez rêvé d'Antoine de Saint-Exupéry? Est-ce que quand on se plonge comme ça dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'on a la lourde responsabilité d'illustrer Terre des Hommes, d'avoir, j'imagine, l'accord de la famille, que Gallimard vous dise c'est bien, on y va. D'ailleurs, est-ce que vous leur avez montré les dessins avant de demander autorisation?
Non, j'avoue, non.
Aucun dessin?
Non. Enfin, j'ai montré les dessins au fur et à mesure, bien sûr.
Non, mais vous avez parlé du projet, on vous a accordé l'autorisation sans voir le moindre dessin.
Oui, enfin, disons qu'il y avait un vrai intérêt, une vraie bienveillance. Mais oui, faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que le livre a été pensé... Enfin, moi, je voulais vraiment créer aussi le livre, entre guillemets. C'est-à-dire... Parce que c'est vrai que c'est une coédition entre Gallimard et Les Livres du Futur, qui est ma petite maison d'édition. Et je voulais créer un objet, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti de l'édition originale. Elle est un peu plus large, etc. C'est un autre papier. Enfin voilà, il y avait vraiment un concept.
Oui, mais le concept est aussi, avec les dessins, de souligner des moments particuliers. C'est-à-dire que vous mettez en exergue des passages parce que vous le dessinez, parce que vous apportez votre vision.
Oui.
C'est comme mettre un coup de stabilo, j'ai envie de dire, sur quelques phrases en disant « celle-là, je les aime ».
Oui, puis c'est aussi c'était une manière de me replonger dans cette période qui est géniale, qui est la période d'avant-guerre, dans lesquels il y a aussi les Tintins. Et il y a beaucoup de points communs entre l'univers d'Hergé et l'univers de Saint-Exupéry. Par exemple...
Vous pensez qu'Hergé a eu l'idée de Tintin avec l'épisode du désert?
Par exemple...
Il a dû lire Saint-Ex.
Quand Saint-Exupéry a eu son accident dans le désert libyen, ça a fait les grands titres de l'actualité. Et je pense que Hergé, il s'inspirait beaucoup de son époque et des événements de son époque pour nourrir ses récits. Et l'accident du capitaine Haddock et de Tintin dans le désert, dans le crabe aux pinces d'or, c'est pour moi une référence claire à l'accident de Saint-Exupéry. Est-ce qu'ils se perdent? Après, ils ont des hallucinations, ils sont à deux doigts de mourir de soif, ils sont sauvés par des bédouins, exactement comme dans le récit.
Donc, et dans Tintin au Tibet aussi, quand ils sont dans la neige, quand ils sont...
Oui, c'est vrai, c'est Guillaume, exactement. Mmh. Ouais.
Dans vos dessins, il y a des choix de couleurs qui sont... De couleurs ou de non-couleurs. Par moment, vous dessinez le ciel et par moment, il n'y a rien. C'est le blanc le plus total. Pourquoi? Quelle est la différence entre un dessin encadré, entre guillemets, avec un ciel dessiné, qu'il soit rouge, bleu, jaune, vous lui donnez toutes les couleurs possibles et imaginables, vous rajoutez beaucoup d'étoiles dans certains, et d'autres où il n'y a que l'homme, l'avion, mais c'est la page blanche qui arrive derrière.
C'est des dessins détourés, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à illustrer le livre, je me suis imposé des contraintes, et donc j'avais le droit de faire des dessins rectangulaires qui sont homothétiques au format du pavé de texte, et des petits dessins détourés qui, eux, peuvent
s'encastrer,
avoir le droit de... Donc voilà, tout était une histoire de jeu. Et puis c'est aussi un petit peu comme un... Enfin, c'est une sorte de clin d'œil aussi à la bande dessinée, c'est-à-dire le rapport entre le texte et l'image qui le complète, qui le précède, qui le... Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il faut respecter le rythme du texte aussi.
Est-ce que les dessins seront en vente?
Alors, en vente, non, mais
on peut les voler.
Il y a des tirages.
Est-ce qu'on peut les louer pour une journée de...
Non, il y a des tirages limités. Voilà, des tirages limités de chacune des images. Et il y a une exposition en ce moment à la librairie, à la galerie Gallimard,
32 qui est gratuite.
Et en fait,
pour vous dire à quel point
60.
pour vous dire à quel point c'est incroyable, c'est pas que pour parler de mes dessins, c'est que dans cette exposition, il y a des objets hallucinants. L'entrée est libre et il y a un morceau...
Il y a la gourde, il paraît.
Il y a la gourde de Saint-Ex dans le désert et un morceau d'aile de son avion. Je sais pas si vous...
L'autre jour, j'ai fait... La gourde qu'on met au poignet, hein.
Non, la gourde.
Non, parce qu'il y avait ici l'histoire de la...
Non, c'est la gourmette.
Gourmette.
Oui, la gourmette.
C'est pas une blague. Bon, ça va. Ok. Non, mais c'est
incroyable.
Attends, elle était... Et on est vendredi.
Ça s'arrête. Allez-y,
donc il y a ces objets, donc c'est une exposition et un musée un peu improvisé.
Ah, c'est une petite exposition, mais il y a des sortes de reliques incroyables autour de l'univers de Saint-Exupéry.
Terre des Hommes, illustré par Riyad Satouf, chez Gallimard et les livres du futur. Le tout co-signé par Antoine de Saint-Exupéry et Riyad Satouf. Voici Tanguy Passion.
Ah oui, Tanguy.
On entend souvent dire que la société se polarise, rien à voir avec les Inuits, les ours, Michel Berger, le paradis blanc, ce n'est pas l'épaule, ni même le genou, m'a dit Eldelave, jamais à barbe, un moment convivial. Non, une société qui se polarise, ça veut dire qu'elle se divise en deux camps opposés avec des positions de plus en plus tranchées. CNews versus France Inter, la droite versus la gauche, Nick Cave versus la joie. C'est une époque pas top pour les centristes, les gens sages, pondérés, c'est fini. Faut que ça clash. Que ça buzz. Ça va les petites putes ? Pardon, j'essaie de buzzer. Oh. Non, il y a un programmateur d'émission télé qui a dit à mon équipe pour que je sois invité pour faire ma promo, ouais, il fallait que je buzz. Vraiment. Que je m'en prenne à Adèle Van Rett. Elle est nulle d'ailleurs. Hein, je le pense pas forcément, mais enfin, il faut que je buzz. Je vous ai d'ailleurs envoyé à tous par mail ma sextape avec Pierre Palmade et Dodo Berman. Oui, c'est de l'IA. Mais bon, si vous pouvez faire fuiter, ça m'aiderait. Les États-Unis aussi sont polarisés, sauf qu'eux ont des armes. Donc, quatre opinions formulées dans un podcast et ça tire. Charlie Kirk et en juin, une élue démocrate a été abattue. Ok, c'est pas nouveau. Luther King, Kennedy, le frère de Kennedy, sa mère, son chat. Bon, il n'y a plus un Kennedy. Trump lui-même a été visé et blessé à l'oreille. Vous vous souvenez, ce qui devait être un assassinat s'est transformé en piercing un peu brutal. Aux États-Unis, quand vous mourrez de manière naturelle, dans votre dernier souffle, vous dites « Tiens, je m'y attendais pas ». La société se polarise et les conservateurs deviennent des super conservateurs. Exemple, le Michigan, état du nord-est des USA. Il doit bien y avoir une chanson de Bruce Springsteen qui en parle, bon, comme de tous les autres états. Ok. Bon, dans le Michigan, un élu républicain a proposé un projet de loi interdisant la pornographie. La pornographie, c'est comme la vie normale, mais sans slip et avec des gens qui sont en grande forme. Si ça passe, les habitants de cet état ne pourront plus voir en ligne aucun acte sexuel explicite. C'est le terme employé. J'ai toujours pas compris ce qu'était un acte sexuel pas explicite. Hein, peut-être un collet serré habillé après quatre ponches avec les danseurs qui disent « Oh là, on surfe sur la limite, bébé !» Donc là, vous dites « Mais c'est horrible, à quoi sert dans ce cas d'avoir Internet ?» D'autant qu'on parle d'actes sexuels réels ou animés. C'est-à-dire que les mangas avec des Dragon Ball excités, terminés et même audibles. C'est-à-dire que dans le Michigan, si vous êtes pote avec Xavier Demoulin, la star d'M6 à la voix de Caribou, qui voulait un vocal et que vous l'écoutez dans le bus, demain vous pouvez prendre jusqu'à 20 ans de prison parce que c'est le maximum que prévoit le projet de loi. Et si vous sifflez une chanson paillarde, j'imagine qu'on vous pend. L'élu républicain explique en fait qu'il veut éradiquer la pornographie, y compris dans les œuvres grand public. C'est-à-dire que 50 nuances de Grey, si ça passe, il restera deux pages. Hein, quand les deux protagonistes disent bonjour et quand ils se disent au revoir. Même la phrase « tu as oublié ta chaussette gauche dans cette chambre d'hôtel » sera susceptible d'être retirée. Les mecs sont devenus en fait des talibans américains. Tous les films avec des scènes sexuelles donc sont visés, mais aussi la littérature érotique, les 10 Châteaux lèvres finis, les tromperies avec le garde-chasse, donc bah autant lire Sanglier Magazine, hein, pour peu que les sangliers et le poil soigné, ce sera aussi excitant, et les contenus liés à la sexualité sont concernés aussi, contenus BDSM, d'accord, on pourra dire qu'on a fait un bal masqué, que le mari s'est déguisé en rôti de porc, d'où les lanières, mais enfin, ça risque de pas passer, et l'ASMR également serait menacé. L'ASMR, ça consiste à faire des petits bruits sexy, qui soit détendent trop. Hein, par exemple, si je m'approche du micro et que je fais des petits bruits de bouche. Bon, c'est plus ou moins de l'ASMR. Ouais. Si je m'approche du micro et que je dis ça va les branlos, c'est que j'essaye de buzzer. Hein, voilà, pour accéder à la promo. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai une clé USB. Dessus, il y a une vidéo de moi en conversation avec Rachida Dati dans un café où je lui promets de m'occuper de Thomas Legrand. Donc, si vous pouvez faire tourner, oui, c'est de l'IA, mais bon, tout est de l'IA. Bon, vous avez compris le principe du projet de loi, Nozob in Michigan, mais même si la loi passe, tout ce qui est sur Internet, ça se contourne. Moi, je suis nul en informatique, donc quand je veux contourner, je me lève et je me mets derrière l'ordi. Mais l'élu du Michigan, Josh Shriver, il s'appelle, propose aussi donc d'interdire les VPN. Les VPN, ce sont des connexions chiffrées qui protègent votre anonymat numérique. Je pense que la prochaine étape va être d'interdire
Internet, puis les doigts, hein, parce que taper sur Google avec le nez, c'est pas simple. Et puis, on n'est pas tous égaux avec le nez. Là où Jean Lassalle avec le sien peut taper 10 recherches simultanées, et bien Liane Folie peut juste taper un petit point d'interrogation. Alors, pas d'affolement, ce projet de loi vient se heurter au premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. C'est-à-dire que si une personne essaie de vous faire taire, vous dites premier amendement. Si cette personne a une arme en vertu du deuxième amendement qui autorise le port d'armes, vous dites « Ok, je vais me taire dans ce cas ». Tout ça pour vous dire qu'il s'agit moins d'une loi faite là pour tout de suite 2025 que d'une vision de ce que l'avenir nous réserve dans le Michigan et ailleurs. La polarisation des opinions tranchées qui flirtent avec les textes qui les testent en fait jusqu'à ce qu'ils s'ébranlent. Ce qui n'est pas un terme pornographique, donc même dans le Michigan, vous pouvez le dire. J'ai connu, parce que je suis dans ce monde depuis toujours, je vois les carrières des autres humoristes décoller et s'éteindre. J'ai connu un monde moins polarisé où on s'affrontait, mais dans une forme de respect de l'autre et de son altérité. Force est de constater que ce monde est mort. Vous devez avoir reçu par SMS ma dick pic. C'est de l'IA. Enfin, faites tourner, il y va de ma promo.
Merci. Merci. Pasturo en promo.
Ouais, sur scène demain pour son spectacle, c'est à Vars, c'est dans l'Isère.
Terre des hommes à relire ou à découvrir pour une première fois, en tout cas un formidable roman magistralement illustré par Riyad Satouf, c'est publié chez Gallimard. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un classique de la littérature. Je vais faire comme Lisa, mais je vais vous donner quelques indices.
T'as pas de photo?
J'ai pas de photo. C'est un livre qui s'est vendu à l'époque à 5 millions d'exemplaires. Oui. Le personnage principal, c'est Brass Bouillon. Brass Bouillon, c'est un livre qui a fait l'objet d'adaptations télé, cinéma. L'auteur a été président de l'Académie Goncourt.
Vipère au point. Vipère au point.
Absolument, bravo. Je parle d'Hervé Bazin, Vipère au point, et on parle bien sûr de Folcoche. Folcoche qui est devenu un nom entré dans le langage courant, ce roman présenté comme autobiographique où Hervé Bazin raconte à quel point sa mère a pu les priver de beaucoup de choses, les punir, et c'est un livre qu'on a, je pense, à peu près tous rencontré au collège.
Sans savoir que c'était une histoire vraie, c'est ça qui est fou, quoi.
Alors justement...
Ah, c'est pas vrai?
Et voilà, on va en parler. Pourquoi on parle d'aujourd'hui d'Hervé Bazin? Parce que une journaliste est partie sur les traces de cette mère en se disant, tiens, allons faire des recherches sur cette mère. Eh bien, elle découvre que tout reposait sur un mensonge. Pourquoi? Pour qu'il dissimule lui-même ses propres méfaits. Hervé Bazin, qui a été quand même président de l'Académie Goncourt, qui a fait la pluie et le beau temps à cette époque-là dans le monde littéraire, en fait, s'est déjà illustré, jeune, par le passé, par des vols, par des fugues, par de nombreux séjours dans des asiles et des centres psychiatriques. Il a multiplié les fausses identités, il a fait des faux papiers, c'est un personnage romanesque hein, de ce point de vue-là. Il est passé par la case prison en 1935, il fait un petit tour à la santé.
Tout comme Nagui.
Il était fils de magistrat, petit-fils de sénateur quand même, donc il vient d'une famille en effet où on ne manque de rien. Il a été justement considéré irresponsable pénalement, ce qui fait qu'il a été interné, mais ensuite il a recommencé les méfaits, et là il a été juridiquement estimé juridiquement responsable, ce qui fait qu'il est passé, après la santé, il s'est évadé, il est passé par Fresnes, il a été condamné en 1940...
Fils de magistrat,
oui. Il a été condamné en 1941 à 4 ans de prison. Il a été libéré un peu plus tôt, en 1944, à la Libération. Et d'ailleurs, il s'est même inventé un passé de résistant. Alors qu'il était en prison, tout simplement. Et là, il a commencé à écrire. Et c'est là que c'est intéressant. Et la journaliste Émilie Lanaise, qui est partie sur les traces de cette histoire, nous raconte les détails. Il se met à écrire des recueils de poésie. Et là, il envisage de se venger de sa famille. Pourquoi ? Parce que, comme il a été jugé pénalement irresponsable, qu'il a eu un certain nombre de méfaits à son actif, il n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, il n'a pas le droit d'avoir un passeport, et il n'a pas le droit non plus de toucher sa part d'héritage. Donc, il part dans une sorte de conflit larvé avec sa famille, ça donne quoi ? Vipère au point, en 1948. Une façon de régler ses comptes à travers la littérature, je trouve ça assez exceptionnel. Donc, Folcoche devient une sorte de symbole de la rancœur d'un fils qui aime le parfum de scandale et qui veut avoir sa revanche. avec un nombre de lecteurs incroyable, au point que nous tous, on pense que cette folle coche, vraiment, s'est tirée de faits réels et que ça a été vraiment une pourriture. Eh bien, Émilie Lanez raconte comment il se réconcilie avec sa mère, ou sa mère se réconcilie plutôt avec lui, en 54, quelques années après. Il fera même en sorte que la presse soit présente pour immortaliser ce moment. Et il va mettre en scène absolument tout ça. Bref, Hervé Bazin n'est pas exactement l'auteur que l'on pensait. Il n'en reste que l'héritage littéraire qu'il nous laisse avec Vipère au Coin est indépassable, mais c'est toujours, on s'intéresse toujours en ce moment à qui est l'homme derrière l'artiste.
Et Poil de Carotte alors ?
Eh bien, ça sera la semaine prochaine. Des révélations.
Mais on peut avoir confiance sur la journaliste ?
La journaliste, on peut avoir
confiance.
Elle
a fait 10 ans, Beaumette. Hein,
Beaumette ou Gourmette ?
Gourmette. Intéressant de voir à quel point donc, un monument de la littérature française n'est pas exactement ce qu'il était. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs vies quand on est un auteur. On peut, surtout quand on explore la matière familiale et qu'on espère raconter quelque chose de véritable. Est-ce qu'il y a un autre auteur associé à l'enfance comme Hervé Bazin, pour nous tous, qui a compté pour vous au-delà de Saint-Exupéry, Riyad Sattouf ?
C'est une question très compliquée. Ouais. Parce que moi, je vais immédiatement aller dans la bande dessinée.
Ah oui, bah allez-y.
Mais c'est par exemple, Sempé. Et Goscinny, le petit Nicolas, c'est la description du monde de l'enfance, où je sais que dans un style complètement différent, même si c'est pas tellement le monde de l'enfance, mais c'est plus l'adolescence, mais il y a Robert Crumb, qui a beaucoup parlé du fait d'être cinglé quand on est jeune. Voilà, ça a été une grande... Régler des comptes, oui. Alors c'est vrai que...
Dans l'Arabe du futur.
C'est qui Pascal Brutal ?
Ah ouais, dis-moi qui est Pascal Brutal. On veut l'épouser avec Daniel. Ça fait une guerre partagée.
C'est vrai parce qu'en fait, j'ai été invité dans une émission avec la journaliste qui a écrit le livre sur Hervé Bazin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant parce qu'il a certainement extrêmement chargé le personnage de sa mère qui, évidemment, n'a certainement pas été l'horreur qu'il décrit. Mais je peux pas m'empêcher, alors c'est peut-être un truc personnel, mais je crois toujours quand même les enfants.
C'est pas un enfant qui écrit.
Oui, mais quand même. Et en fait, je me dis, il a dû lui arriver quelque chose. Parce que quand on dit c'est un escroc, c'est un psychopathe, tout ce que vous voulez, je suis d'accord.
Oui.
Mais il est devenu comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a pas quelque chose dans son enfance qu'on ne sait pas,
c'est beau,
que lui n'a pas vraiment dit et qui en fait il s'est vengé.
Répondu à la question. Est-ce que vous avez déjà réglé des comptes indirectement ?
Honnêtement, non.
En donnant par exemple un nom à un personnage, le nom d'un méchant mais qui est juste un voisin qui a fait du bruit dans la nuit.
Non, vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi non ? Parce que en fait j'ai peur que les gens se reconnaissent et m'attaquent en justice ensuite.
Ah oui.
Et comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, on ne peut pas vraiment cacher
mais
les
choses. Pardon, mais quand vous racontez votre famille, c'est votre vision de la famille aussi donc
Oui, c'est vrai, mais pour le coup, en fait, en vrai, personne ne s'est jamais plaint parce qu'ils n'ont pas trouvé que j'exagère. Enfin, peut-être dans quelques années, ils se plaindront, mais je n'ai pas... Et en même temps, en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans mes BD, mais je protège leur anonymat en changeant leur tête et en changeant leur nom.
Bah, moi, Fadi, le frère volé, il y a le tome 2 qui va arriver. Vous ne changez pas grand-chose, là.
Ben non, mais parce que c'est quand je dis des choses méchantes ou quand je fais des personnages cruels. Okay. Mais non, régler des comptes, en vrai, je n'avais pas de compte à régler avec qui que ce soit.
Riyad Sattouf est un homme bien. Une autre question.
Pour l'instant, attends qu'une journaliste fasse une enquête.
Bien sûr. Dans 20 ans, 30 ans. De la BD à présent, on va ressusciter un personnage iconique en le mettant en scène dans un univers contemporain. Cette créature a bientôt 80 ans. Son prénom, c'est Balthazar. On ne le connaît Picsou. Pas trop. Ah, bravo. Balthazar, tu trouves Picsou. T'es exceptionnel. Picsou.
Non, c'est sa génération.
Picsou, oui. Ce canard milliardaire colérique, cupide aussi, avec ce chapeau haute forme. Eh bien, ça. Il va entrer dans le monde des crypto-monnaies et des influenceurs. C'est Jules au scénario, le scénariste de Lucky Luke, et le dessinateur Nicolas Keramidas qui vont s'y coller. L'album va sortir avec les Raptou, qui sont des hackers. Donald et les Castors Junior sont devenus des influenceurs. On va retrouver donc Riri, Fifi et Loulou. Il y aura...
Julien et Emma, surtout.
C'est vrai.
Raptou, influenceurs.
Il y aura mais je pensais à Daisy plutôt. Il y aura Géo Trouve-Tout aussi. Tous les personnages sont absolument convoqué avec l'idée peut-être qu'il y ait une sorte de nostalgie autour du retour de Picsou et un vœu annoncé de Jules, à savoir si ça marche, peut-être tous les deux ans en sortir un et venir alterner avec Lucky Luke et comme ça faire fonctionner des vieilles légendes de la bande dessinée.
Ouais, une marque aussi.
C'est une marque absolument. Donc il faut voir si maintenant les gens sont très intéressés par ce milliardaire aujourd'hui. Alors il fait dire au personnage de Picsou dans l'album vraisemblablement que aimer les milliardaires aujourd'hui c'est pas forcément exactement la bonne période, mais voyons ce que ça va donner. Il y a un tirage à 100 000 exemplaires pour commencer, ça va être distribué un peu partout, notamment dans les grandes surfaces, en se disant peut-être que là, toutes les générations qui connaissent Picsou et tous les descendants vont peut-être être attirés par ce genre d'album. Vous êtes un lecteur de Picsou, vous, Riyad Satouf?
Non, pas tellement. Non, j'avoue, je suis passé à côté de l'univers de Disney. Pas du tout. Mais mon fils adore les Picsou et c'est rigolo de voir à 10 ans comment il peut s'identifier à cet univers. Et Picsou, c'est un personnage mythique, justement, sur la radinerie et la richesse et tout. C'est super à lire quand on est petit.
Et l'album est sorti hier, voilà.
En 2026, pour parler de l'avenir de Riyad Satouf, donc moi, Fadi, le frère volé, le tome 2, et le jeune acteur aussi, tome 2.
Oui, on est en train de le faire, là, tout
parfait.
À fait.
Vous n'avez pas changé d'acteur?
Non.
Des excuses à présenter.
Bien sûr, désolé pour Julien Santini, dont l'étrangeté capillaire a été signalée, signifiée, dénoncée par Nagui. Alors, comme le disait quand même Leïla, je la cite, il exagère, Nagui. Elle est très bien, cette moumoute corbeau frisée. C'est vrai, sur un noir Jack Lang. Je trouve ça assez chic.
Non.
Désolé pour la galerie Gallimard qui accueille l'expo Saint-Exupéry et qui a eu droit à la plus mauvaise promo du monde. Erreur sur l'arrondissement, numéro de la rue, aucune info sur ses exposés, rien sur les horaires d'ouverture. 100% d'erreur, je dis, c'est du génie. Bon, c'est donc la galerie Gallimard en 32.
Gallimard. Vous lui confisquez.
Et la vengeance de l'arabe du passé, c'est 30-32 rue de l'Université, c'est dans le 7e. C'est du mardi au samedi de 13h à 19h. C'est de mémoire que je vous cite tout ça. Bien entendu, et désolé pour les enfants de Riyad Satouf qui ont eu la confirmation qu'ils n'auraient jamais droit à ce qu'on appelle la liberté. Liberté de mouvement, en tout cas. Pour rentrer à l'école, ce sera voiture blindée et garde du corps.
Il faut parler aussi de ceux que vous publiez, puisque vous avez cette maison d'édition Les Livres du Futur. Vous publiez une bande dessinée de Théo Grosjean, qui sortira en novembre prochain, et qui s'appelle Le Petit Gendarme ou l'Enfance de Riquet. Merci mille fois d'avoir été notre invité. Et bravo. Et merci de nous donner envie de découvrir ou redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, chez Gallimard. À suivre donc Vol de Nuit. Là aussi, on découvrira avec appétit et le texte et les illustrations de Riyad Satouf.
Ah, ça y est.
Oh là, c'est jamais assez. C'est week-end.
Lundi, nous recevrons Michel Simès et Philippe Lelièvre.
D'où Jésus.
On est. Non, que.
Il vient pourquoi?
Que Michel Simès et Philippe Lelièvre.
C'est pareil qu'il est acteur.
Le troisième va voulu, il n'est pas là.
Il a pas voulu.
Et puis, on a quand même tenu une émission entière avec Riyad Satouf, sans parler des inconnus, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Passez à ce propos,
belle journée. À lundi. Ciao.